Ne m'en veuillez pas si je commence cette journée sur un ton un peu sceptique, de doute en tout cas de réticence. Le thème n'est-il pas trop beau, recréer le monde ? Surtout dans l'état de rétrécissement dans lequel se trouve la France aujourd'hui, je ne dirais pas de déclin, mais je dirais de rétractation des possibles, ce thème, recréer le monde, n'est-il pas de compensation ? N'a-t-il pas quelque chose d'un projet plutôt d'une projection fantasmatique? En tout cas, il me semble utile de rappeler ce qu'il a de mythologique, avant d'envisager peut-être ce que cette mythologie peut avoir de fécondité. Bon, évidemment, parce que mythologie ostensible. Par son départ, le récit de la création, dans la Bible. Certes, ce commencement dans la Bible ne se fait pas à partir de rien, ex nihilo, c'est les Grecs qui introduiront cette conception. Mais en tout cas, ce commencement introduit une rupture. Un tel commencement est une irruption, présentée comme une irruption sans précédent. Il y a un surgissement abrupt. Ce commencement fait événement. Et c'est vers cette fracture-là qu'il est pointé. Et même, c'est peut-être de cette pensée-là, cette pensée du commencement comme événement, comme effraction, que découle l'idée de Dieu. Parce qu'il est conçu comme une effraction, le commencement biblique est perçu comme une intervention. L'effraction, donc intervention, faisant surgir un créateur, Elohim. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre, en tout cas dans le début, qui est un faux début, puisque c'est un début second, mais celui du document sacerdotal. Sur cette scène initiale, il projette souverainement son vouloir, il, bien sûr, il, le grand intervenant, le grand actant, Dieu. Comme il en vérifie après coup, à chaque étape, le résultat. Et Dieu vit que cela était bon. Cette création est donc à la fois un déploiement et une séparation, portée par la parole, donc déjà mise sous la perspective d'un sens, ce qui en fait sa grande originalité par rapport à l'autre récit, mis après mais datant d'avant, puisque c'est dans le récit sacerdotal par Dieu, par la parole que Dieu crée. De là l'efficace, qui est à la fois de démêler la confusion, le fameux tohu-bohu, et de convoquer à l'existence. Tout cela est bien connu, de même, je pense que je ne m'y arrêterai pas, c'est pour ça que je la laisserai de côté, la cosmogonie grecque qu'on peut mettre en vis-à-vis, Hésiode, le chaos, et puis la terre, le ciel, les dieux, etc. Et puis ce qui est le récit de la création du monde dans le Timée de Platon, démiurge opérant par la géométrie, avec ensuite ces combinaisons, ces rencontres, ces mélanges, comme entre le récit biblique et le récit démiurgique platonicien, comme à l'école de Chartres au Moyen-Âge. Non, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la laïcisation de cela. La laïcisation de la figure du créateur, laïcisation de ce mythe, du Dieu des créateurs, et cela dans l'Europe moderne, à partir de la Renaissance, quand, s'écartant de la pensée de Dieu, en tout cas commençant à prendre ses distances avec elle, dans l'humanisme de la Renaissance, en quelque sorte supprimant Dieu, on en garde la posture. La posture, la figure du grand sujet en position d'initiative, initiative initium, ab initio, d'être le sujet en tant que début, se posant en début. Avec ce qui fait l'accouplement des deux grandes facultés à l'époque classique en Europe, l'entendement qui conçoit en vue du meilleur et la volonté qui fait entrer ce meilleur dans la réalité. Et ce sujet, ce grand sujet, s'attribue ce pouvoir démiurgique du créateur en tant qu'auteur, créateur, compositeur, en art, en littérature. Comme on dit d'une façon qui nous paraît aller de soi, création littéraire, création artistique, création musicale. Or, cette figure du créateur, même laïcisée, sans l'être totalement, demeure à l'évidence mythologique. Alors, vous me direz peut-être, mais comment s'en passer? Si je retire cette notion de créateur, puis-je encore désigner ce dont provient l'œuvre artistique? Je remarque d'autant plus qu'elle est mondialisée. Aujourd'hui, les cultures extérieures ont adopté cette commodité sémantique, de sémantique symbolique, hein, là, en l'occurrence, de cette figure du créateur. Et néanmoins, si je me tourne d'un autre côté, celui sur lequel j'ai l'habitude de loucher, le grand espace de la Chine, j'y constate comment on a pu élaborer une pensée de l'art, mais d'abord une pensée du monde, l'origine du monde, sans passer par ce grand mythe de la création. Pas de grand récit, pas de mythos, pas de création. On dit souvent notre époque est celle de la fin des grands récits. Eh bien, on peut considérer en Chine comment on est passé à côté des grands récits. Pas de grands récits. Et si je me réfère à ce texte qui est le texte de fond de la culture chinoise, en gros l'équivalent de la Bible pour son ancienneté et l'ampleur qu'il a eue, l'importance dans le contexte chinois, le fameux I Ching, classique du changement, eh bien, je n'y trouve au début aucun récit, aucun actant de la création. Une formule, quatre termes, les quatre premiers mots. Commencement, essor, profit, rectitude. Une simple formulation, je traduis de façon substantive, ça pourrait être aussi bien verbal. Une phrase donc qui n'est pas construite, qui ne dit même pas « et puis » comme dans la Théogonie d'Hésiode. Pas construite, qui ne fait que faire se succéder quatre termes qui sont quatre termes d'étape ou de relais. Valable pour n'importe quoi. On ne dit pas de quoi il s'agit, et il n'y a pas non plus de sujet qui y préside. Cette formule se contente, cette formule suffisante comme telle, qui ne sera ensuite que commentée, qui ne sera pas développée, mais commentée, se contente de détacher et d'enchaîner. Chaque terme suivant relaie le précédent et le déploie. Il en procède, le renouvelle et le porte plus loin. Alors, je demanderai, peut-on imaginer formulation au départ, moins inventive, moins fictive, moins aventureuse, moins risquée. Une formule qui décolle, cette formule ne décolle pas, décolle le moins possible, n'invente rien. À différence du grand mythe biblique du Créateur, on ne fait ici qu'indiquer les étapes et la justification de tout développement possible. D'ailleurs, elle n'a même pas un sens à proprement parler. Elle développe une cohérence. Les phases successives d'un déroulement. On voit derrière un rythme saisonnier. Le commencement du printemps, l'essor de l'été, profit, récolte de l'automne, et la rectitude de l'hiver, à la fois solidité et ténacité qui fait que, par enfouissement, mais non pas disparition de la capacité, un renouveau est possible. Il y a une notion qui, je crois, fait écart par rapport à notre grand mythe de la création, c'est la notion que je traduirais du chinois par amorce, ti en chinois. Amorce, c'est un terme qui me paraît intéressant à cet égard. C'est un terme discret. Amorce, ça mord, quelque chose mord, quelque chose prend, quelque chose prenant se met en route. Amorcer. Comme amorcer, c'est un terme qui n'est pas théorique, c'est un terme de vie pratique, du pêcheur, n'est-ce pas, amorcer. Eh bien, voilà, au départ, elle amorce. Il y a quelque chose qui discrètement s'amorce et qui fait son chemin. Et le clivage, c'est entre amorcer ou avorter, n'est-ce pas? C'est dans cette logique-là que quelque chose commence à devenir quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est au départ et qui devient seulement plus tard quelque chose qui prenant forme à partir de cet amorçage, c'est-à-dire trouvant des conditions de possibilité, peut faire son chemin et se développer. Oui, cette formule... Quatre termes, qui ne sont même pas construits, articulés, commencement, essor, profit, rectitude, n'introduisent aucune intrigue, pas d'opposition possible, aucun drame, pas de négatif à l'œuvre, et plus que ça, on ne voit même pas comment contester cette formule. Au fond, ce qu'elle évoque, c'est cette capacité initiatrice, d'amorçage au sein de tout réel, engageant tout procès. Amorçage, déploiement, se positivant, comme on dit, se renouvelant, Si donc je mets en rapport la conscience chinoise avec celle qui nous vient de la Bible et qui s'est comme ça ensuite implantée dans le contexte européen, non pas en termes de différence, j'insiste là-dessus, mais en termes d'écart, je ne compare pas, je mets en vis-à-vis et je réfléchis l'impensé de l'un par l'autre. Bien, en termes d'écart, on voit cet écart jusqu'où il va. L'absence de sujet premier, d'auteur ou créateur. Pas de rupture, d'effraction, donc pas d'événement. L'absence de Dieu en est la conséquence. S'il y a en Chine célébration de cette capacité initiatrice, de ne cesse de procéder ce qui fait monde, il est plus nécessaire qu'émerge un sujet, que se distingue un agent. Quand je dis la pensée chinoise, en fait, il s'agit de la langue pensée chinoise, la pensée qui pense en chinois. Et en ce cas-ci, pour constater simplement que la langue chinoise ne conjuguant pas, il n'y a pas de distinction de l'actif et du passif. Or, notre pensée du créateur, évidemment, sur le mode actif, le grand agent, mais au fond, dans une pensée à l'infinitif, donc du déroulement ou du processuel, qui ne passe pas par ce clivage pour nous essentiel dans la langue du passif et de l'actif. Donc, pas d'instance isolée, et donc pas de révélation, mais une pensée, je dirais, de la régulation. Alors, quel écart cela projette-t-il sur notre pensée de la création, comme quand on dit création musicale ? Je viens de dire pas de récit, c'est-à-dire qu'on n'entre pas dans la pensée du monde par un récit, en racontant une histoire. Pas d'actant, donc pas d'instance initiatrice, pas de sujet. La formule rencontre seulement du processuel, de l'avènement sans rupture, donc qui n'est pas événement. Un process amorce par rencontre, rencontre et accouplement de facteurs ou de flux opposés complémentaires, donc entre pôles, d'une interaction génératrice qui s'engage et se propage et se prolonge de ce qu'elle se régule et qu'elle trouve donc sa viabilité, ce qu'on appelle Tao en chinois, la voie. Non pas une voie qui mènerait vers quelque chose, mais la voie de la viabilité, par où ça passe. Or, il en va ainsi du monde. Il en va ainsi de l'œuvre. Le monde, plutôt du monde. Du monde s'engendre par corrélation du ciel et la terre, du yin et du yang, etc. De l'œuvre. Un poème. Un poème, si je prends comme exemplaire de l'œuvre, puisque c'est la poésie chinoise est essentielle dans le contexte culturel de la Chine. Un poème, une musique, une peinture, adviennent par corrélation. Corrélation, interaction. Donc, processuellement, entre une intériorité sensible, particulièrement sensible, douée, et une extériorité qui la suscite. Extériorité aussi bien sociale que de paysage. Donc, par échange, incitation entre des pôles, d'où découle un déroulement, d'où découle un processus que nous disons de création. D'où naît l'œuvre par transformation, huagong en chinois. D'où découle l'œuvre, donc à titre de résultat. À la place d'une pensée de la création, on a donc une pensée de l'actualisation. Quelque chose prend forme, advient, prend forme, s'actualise, xing en chinois. Si je me réfère au grand texte que nous appelons, nous, de création littéraire de la Chine ancienne, le texte débute par une filiation des premiers tracés qui sont les tracés des astres, des reliefs sur le sol, et puis du tracé des zébrures, des peaux d'animaux, et puis tracés qui sont les tracés des idéogrammes. Et des idéogrammes qui eux-mêmes aboutissent au texte Wen constitué. Donc dans une logique de filiation. Filiation à partir d'un originaire qui est celui de la nature dans son actualisation régulée, et qui se prolonge donc de filiation en filiation, par ce tracé qui advient comme le tracé des signes idéographiques sur la page. Donc logique de la filiation, et non pas de la rupture, non pas de l'événement, non pas donc, ne conduisons pas à poser cette figure de, par rupture, la figure du créateur. C'est ce qui m'amène à revenir à ce thème sur lequel je me suis déjà arrêté il y a quelques années, celui de transformation silencieuse. Mohua en chinois. Donc pensez non pas en termes de création, c'est-à-dire rupture, événement, sujet, mais de transformation silencieuse. Qu'est-ce qu'une transformation silencieuse? Je la définirai ainsi. Ce qui chemine sans bruit, donc dont on ne parle pas. Ce qui chemine sans bruit, donc dont on ne parle pas. Ce qui chemine sans bruit, pourquoi? Parce que c'est global et continu. Global et continu, parce que le processus est global et continu, donc il ne se démarque pas, donc on ne le remarque pas. Il passe sous silence. Or, tant de choses, je dirais volontiers tout, dans notre expérience, est transformation silencieuse. Grandir, vieillir, parce que c'est global et continu. On ne se perçoit pas vieillissant. Le réchauffement climatique, un divorce, tout cela, en fait, relève de transformation silencieuse. Si on articule bien les deux, transformation silencieuse est ce que j'appellerais, pour l'articuler, événement sonore. Transformation silencieuse et événement sonore. Je prends le terme d'événement sonore à Brodel, à l'école des Annales, mais avec la question qui était celle de Brodel, celle du temps long, de la durée lente, de ce qu'il appelle la quasi-immobilité de l'histoire. Mais cet événement sonore n'est peut-être, plutôt, n'est sans doute que l'affleurement sonore d'une transformation silencieuse. Le résultat après coup qui surgit, et qui surgit d'autant plus qu'on ne l'a pas vu venir. C'est comme quand je dis on ne se perçoit pas vieillissant et qu'on retombe sur une photo d'il y a 20 ans. Ah, j'ai vieilli. Donc plus la transformation a cheminé silencieusement, moins, n'est-ce pas, enfin, plus on est surpris ensuite de son émergence sonore. Donc, transformation silencieuse et affleurement sonore. Alors peut-être y a-t-il de même, justement, dans le domaine de ce que nous appelons la création littéraire, picturale, musicale. Ce que nous appelons création est peut-être que l'affleurement sonore d'une transformation silencieuse. Je prends trois exemples pour aller vite. L'imprimerie, si maintenant je me tourne en termes de culturel, l'imprimerie, nous disons, comme ça, sans y penser davantage, Gutenberg a inventé l'imprimerie. Un grand sujet, Gutenberg. Une date, un lieu, une invention. La Chine n'a pas inventé l'imprimerie, mais elle l'a faite. Elle l'a faite avant Gutenberg. Il y a cette longue transformation silencieuse à travers laquelle la Chine, par la pratique du sceau, de l'estampage, a commencé à imprimer, jusqu'à imprimer ensuite des livres. Et c'est cette non-invention chinoise qu'a capté Gutenberg là où il était, quand les deux mondes ont commencé à se rencontrer. Donc nous disons, sous la figure du sujet et de la création et de l'invention, grand mythe aujourd'hui, l'innovation, Gutenberg a inventé l'imprimerie, mais en fait on peut voir que le pays où s'est actualisée la capacité d'imprimer des livres ne l'a jamais célébré comme tel, en le rapportant à un nom, une date, etc. En peinture, l'Europe, mais avant l'Europe, Rome, n'a cessé de penser à la peinture sous la figure épique. Si je me rapporte aux premières histoires de la peinture en Europe, celle de Pline l'Ancien, au livre 35 des histoires naturelles, comment raconte-t-on l'histoire de la peinture? Comme un grand récit. Le premier tel peintre a fait ça, le premier tel peintre a fait telle autre chose, le premier tel peintre a fait encore autre chose, le premier, n'est-ce pas? Et plus l'histoire de la peinture avance, plus il en est ainsi, plus elle se précipite dans cette création manifestée, si on pense à la peinture à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, tous ces ismes qui se succèdent avec autant de manifestes, autant de ruptures, autant de dates. Avec ce qui est de l'impressionnisme au pointillisme, au fauvisme, au cubisme, bref. Cette façon de représenter, je dirais, l'engendrement ou l'actualisation culturelle sous la figure et de la rupture et du manifeste et de l'événement. Dont on pourrait penser que cela va de soi, puisque c'est la tradition dans laquelle nous pensons, Mais ce qui reparaît étrange quand on le considère à partir de cet écart chinois que j'évoquais en commençant et si rapidement, ou quand on se tourne vers l'histoire de la peinture chinoise, il n'y a pas de grand isme, il n'y a pas de manifeste, il n'y a pas de date. Il y a des peintres originaux, par contre. Mais on dit d'un tel qui est allé étudier auprès d'un tel, qui lui-même étudie auprès d'un tel, le grand verbe de la pensée chinoise à cet égard, xue, qui signifie imiter, étudier, s'appliquer, le mot par lequel commencent les entretiens de Confucius, et qui est justement l'idée que on commence par mettre les pieds dans les pieds, dans les traces des pieds précédents, les traces des prédécesseurs, réchauffer l'ancien, comme dit Confucius, et donc, sans avoir mis en valeur, sans avoir privilégié cette grande scansion de la rupture, et donc du sujet qui en émerge, comme la figure du créateur en Europe l'a porté. Dans notre pensée, nous-mêmes, quand nous pensons avoir une idée, Eureka, j'ai une idée, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui surgit comme ça, comme une idée ? Est-ce qu'il n'y a pas plutôt une transformation silencieuse, une maturation qui se poursuit et dont émerge, dont affleure ensuite, événement sonore, l'idée quand elle se dégage de ce cheminement silencieux qui nous échappait. Je crois que nos idées créatrices, comme on dit, seraient plutôt l'affleurement sonore de transformations silencieuses. Or, pourquoi j'ai dit silencieux et non pas invisible ? Parce qu'il faut distinguer ces deux sens, l'ouïe et la vue. Nous avons privilégié par tradition grecque la vue. Et comme dit Aristote, la vue, c'est le sens qui est le plus proche du cerveau. La première page, la métaphysique d'Aristote, la vue, c'est en fait le sens qui fait transition entre le perceptible et puis l'intelligible. À preuve d'ailleurs que quand l'œil ne voit plus, l'âme voit. Hein, c'est Platon, l'œil de l'âme. Ou voir la forme de Dieu, comme dit Augustin. Bref, c'est la vue qui a construit le vocabulaire théorique de l'Europe. La vue, la preuve, théorie signifie voir, théorein. Idée signifie aussi vision, vient du vocabulaire de la vue. Or, la vue, c'est le sens du local et du discontinu. Je regarde ici ou je regarde là. J'ouvre les yeux ou je ferme les yeux. Local et discontinu. Or, Louis, qu'a privilégié la pensée d'Extrême-Orient, est le sens non pas du local mais du global, non pas du discontinu mais du continu. Du global, j'entends derrière la tête. Et on dit, fermez l'oreille, mais on entend toujours. Louis est cette sorte de cornet, n'est-ce pas, qui est justement le sens de la processualité, des continuités. Continuité et globalité, bref, des transformations silencieuses. C'est pour ça que moi, j'appellerais silencieuse, ma tension est de Louis, et non pas invisible. Bon, mais néanmoins, j'ai dit mythologie, mais mythologie qui a sa fécondité. Quelle serait cette fécondité de la mythologie de la création telle que l'Occident l'a développée ? Qu'une mythologie soit une représentation arbitraire, fictive, et même fantasmatique, fictive par son récit inventé, fantasmatique par ce qu'elle projette d'une figure du sujet, donc se complaisant dans la rupture, se posant en grand commencement, donc, se prenant pour le Dieu créateur, s'affublant de cette posture, ne l'annule pas pour autant. Ce fictif a sa fécondité. Alors, je dirais rapidement deux fécondités. Une fécondité, je dirais, critique, et une fécondité que j'appellerais théorique ou eidétique, pour remettre en valeur le grand terme d'eidos platonicien. Fécondité critique, c'est au fond la fonction de négativité. Ce qu'on réduit trop sous l'appellation commune d'esprit critique. Mais ce mythe de la coupure, tant revendiqué par les artistes, brûler le Louvre, comme disait Cézanne, en même temps qu'il y revient tous les jours, le brûler le Louvre, recommencer la peinture, n'est pas sans effet. Tu effaces et je recommence. Cette façon de dire non au précédent, vous vous souvenez de la fameuse phrase de Bergson, « Tout philosophe vient dire non au philosophe précédent. » Et si on suit bien la phrase, « Tout philosophe ne cesse de se dire non à lui-même. » Donc cette force de négativité, de dire non à tout ce qui a précédé, comme force de réfutation, contestation, dénonciation, de recommencer le monde, ou la peinture, ou la musique. Donc développe une force de désadhésion ou d'arrachement. Fécondité de la coupure, même si on sait bien que cette coupure, en fait, est projetée, est une représentation et n'est pas effective, ne peut pas l'être. Donc, représentation de la coupure qui a une fonction, un effet propre, fonction propulsive. Bien sûr, on ne recommence pas la peinture. On ne recommence pas la musique. Bien sûr, on ne recrée pas le monde. Mais ce nom de refus, de protestation, qui peut être aussi de dénégation d'ailleurs, permet une émancipation, dégage une liberté. Et je dirais par rapport à sa fonction, positive cette fois, théorique ou eidétique, pour remettre en valeur cette notion d'eidos comme forme modèle, telle que les Grecs l'ont pensé. Donc fonction non plus de négativité, mais d'idéalité. C'est ça aussi que dégage le grand mythe de recréer le monde ou de création artistique. Ce mythe de la création ouvre la possibilité de la modélisation. Mais recréer, c'est ça. C'est réélaborer du modèle pour engendrer. La quête d'un devoir-être, la formulation de la forme posée comme but, n'est-ce pas ? Eidos, telos, le grand couplage grec. La modalité idéale. C'est une question qu'on s'est beaucoup posée. Pourquoi il n'y a pas eu de Galilée chinois ? Question qu'on s'est beaucoup posée en Chine, qu'on s'est posée en Europe, mais qui a été un grand tracas de la pensée scientifique au XXe siècle. Pourquoi, alors qu'on regarde, quand on ouvre un atlas d'histoire des sciences, la science, il y en a un peu partout dans le monde, à haute époque, en Inde, en Grèce, bien sûr, en Chine et ailleurs encore, dans le monde arabe en abondance. Et puis, qu'est-ce qui fait qu'à partir du 15e, 16e siècle, il n'y a plus de science qu'en Europe ? Et pourquoi pour trois siècles, eh bien, l'Europe a en quelque sorte confisqué à elle, à son profit, l'histoire des sciences. Si vous prenez la Chine et l'Europe jusqu'au 15e siècle, 14e, 15e siècle, la Chine est aussi développée techniquement que l'Europe, aussi, voire plus. La boussole, la jonque, la poudre, l'hydraulique, l'imprimerie, enfin, tout ce qu'on sait de ces savoirs chinois. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a eu rupture et qu'une culture, l'occidentale, a connu un tel déphasage par rapport aux autres, qui fait qu'elle a régné, si j'ose dire, pendant trois siècles, cette période venant de s'achever. Je pense que cela est dû pour une grande part à la force que la pensée européenne a donnée à ces deux thèmes, et de la coupure et de la modélisation. Et du négatif et de l'idéal, les deux. Et c'est ce qu'on peut, comme ça, symboliquement représenter sous la figure de Galilée. En n'oubliant pas la grande phrase de l'essayeur de Galilée, Dieu écrit le monde en figure de géométrie. Donc, l'idée qu'au fond, la coupure, le modèle. La coupure, oui, justement, Galilée coupant avec la physique aristotélicienne, Galilée, c'est Galilée et Bacon, Descartes, le novum organum de Bacon, enfin, novum organum, voilà, rupture avec le passé, on rompt, et un nouveau départ est possible. Alors là, il y a un effet propre qui a permis l'invention d'une science, qui a été cette fameuse physique causaliste, mécaniste, mais d'abord mathématique. Mathématiser, c'est là, modèle. C'est pas... Au fond, Galilée vient des deux, prononcer la coupure, rejeter la science passée, la physique aristotélicienne, celle des qualités sensibles, et en même temps modéliser, et avec ce qui était le modèle du modèle en Europe, à savoir les mathématiques. Dieu a écrit le monde en figure de géométrie, ce qui le rendait possible par l'invention d'une science qui n'est advenue qu'en Europe, et qui n'est sans doute advenue en Europe que pour cette raison-là. Que sur que juger sur la coupure et le modèle, coupure comme rejet du savoir passé, et modélisation, qui a sa forme la plus expressive dans la modélisation mathématique, et qui permet ainsi, pour reprendre la fameuse formule de Coiret, d'expliquer le réel par l'impossible. Donc, je dirais, créer ou recréer le monde, la peinture, la musique, sont certes mythes. C'est cela, une mythologie. Faire rejouer le vieux mythe de la création, mythe qui n'est jamais complètement laïcisé, de même que celui du paradis, qui n'a jamais été vraiment laïcisé, donc est aussi théâtral et fantasmatique. Mais possède une fécondité critique, théorique, plus à cette double ressource, et du négatif et de l'idéal, négatif ce que j'appelle négatif. Négatif qui fait travailler, négatif qui rompt et qui, en rompant, fait avancer. Et de l'idéalité, à la fois donc du refus et de la modélisation. Ce qui permet, en affichant abusivement, certes, une rupture avec le passé, et en s'affublant de la posture d'un grand sujet, de se risquer et d'oser, autrement dit, de s'aventurer. Si l'histoire, celle du monde ou celle de l'œuvre, est plutôt faite de transformations silencieuses, dont les créations ne sont que des affleurements sonores, si donc notre mythe de la création, création, recréation, a sa naïveté, cette naïveté est promotrice. Ou bien, disons, ce théâtral est effectif. Je vous remercie de votre attention.